6, merci d'écouter Radio Alpha, la radio lusophone en France. Vous écoutez plus précisément l'Alpha 10-13. Je suis Didier Carmalo et je suis maintenant en compagnie de Thiago Martins. Bonjour Thiago.
Bonjour Didier, bonjour tout le monde.
Tu es un influenceur, détenteur du compte Portuguese Fact sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Mais tu es aussi aujourd'hui un auteur. Et quel auteur? Un auteur qui a remporté le premier prix au Gourmand World Cookbook Award en Suède, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que ton livre, qui s'appelle « L'histoire du Portugal dans mon assiette », édité aux éditions Cadamost, est le meilleur livre au monde de cuisine et culture portugaise. Rien que ça.
Exactement. Je peux prétendre au titre de champion du monde dans une catégorie une fois dans ma vie.
Parle-nous un petit peu de ce livre, alors, justement.
C'est un livre historico-gastronomique, comme j'aime le définir. C'est un livre de cuisine portugaise, avec des recettes portugaises, plus de 60 recettes, pour être précis. Et chaque recette est d'un chef portugais de la diaspora à travers le monde. Donc il y a plus de 10 pays représentés, et plus de 60 chefs qui ont participé. Et c'est aussi un livre d'histoire. Donc j'accompagne les recettes d'anecdotes historiques, et j'essaye de raconter toute l'histoire du Portugal à travers le livre et sa gastronomie. Et en plus de ça, il y a aussi le côté humain, le côté personnel, où je raconte mon histoire, qui est l'histoire de beaucoup de monde qui écoute cette radio, et dont la tienne aussi, d'un fils d'immigré portugais en France, qui garde le lien avec le village, les champs, etc. Donc voilà, c'est un livre historico-gastronomique et aussi personnel. Donc voilà, c'est un livre complet.
Exactement, un ouvrage complet pour découvrir la gastronomie, l'histoire et le terroir portugais. Tu l'as dit, plus de 60 recettes de soupes, d'encas, de plats, de desserts ou de cocktails et des centaines d'anecdotes insolites et drôles pour régaler et égayer vos convives. Comment on finit au Gourmand World Cookbook Award en Suède, Thiago ?
Le culot. En fait, ce qui m'a mené ici aujourd'hui, et beaucoup de fois dans mon parcours, c'est le culot. Faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et de se lancer. Donc j'ai eu le culot de me lancer sur les réseaux sociaux justement pour montrer une autre image du Portugal, montrer d'autres aspects de la culture portugaise. Ça a marché et au début, se faire une place sur les réseaux sociaux, c'est pas facile. Donc j'ai envoyé des messages au vent, comme ça, je disais voilà, j'écris ça, ça peut vous intéresser. Donc voilà, avec le culot, petit à petit, ça a intéressé les gens, donc j'ai commencé à me faire une communauté. Et après, j'ai eu aussi le culot de critiquer certains aspects de la communauté, notamment la forte présence des parodies un peu graveleuses et des sketchs, un peu de l'humour qui nuisait, de mon point de vue, à notre image ici en France. Donc j'ai fait une tribune sur ça, sur les réseaux sociaux, ça a fait parler, il y a eu des débats, etc. Et donc j'ai eu le culot de le faire, ce qui a attiré l'attention de Sandra, de Cadamos Edition, qui a aimé mon profil, avec qui on a échangé beaucoup, et du coup qui m'a confié le projet de faire ce livre de cuisine. Donc voilà, donc ce livre de cuisine s'est fait. Il y a eu le culot aussi de contacter plein de chefs pour pouvoir participer au livre, donc notamment des chefs comme Louise Bourra qui a gagné Top Chef.
Absolument,
donc,
des chefs médiatiques.
Médiatiques, donc il fallait avoir le culot de leur envoyer un message. Et au final, il ne faut pas avoir peur de faire, parce qu'on a beaucoup une image du monde qui part un peu en vrille, il y a des gens qui sont un peu individualistes, mais encore beaucoup de gens sympas, et il ne faut pas avoir peur d'envoyer des messages, et au pire, ils ne répondent pas, au pire, ils disent non, mais voilà, ça n'a jamais fait de mal. Et il y en a quelques-uns qui disent oui. Juste pour faire une petite aparté, j'ai aussi le culot de faire du projet de street art dans mon village au Portugal.
Barente,
exactement. Et donc, j'ai eu le culot d'envoyer un message à des artistes en disant, voilà, je compte faire un truc, est-ce que vous pouvez envoyer une petite œuvre pour dans mon village? Et ça a marché. Donc, pour en revenir au concours, c'est pareil, j'avais vu passer le concours, justement, c'était le concours, j'ai regardé par curiosité sur Internet quel était le concours le plus prestigieux pour les livres de gastronomie. J'ai vu que c'était celui-ci, donc j'ai regardé comment fallait faire pour s'inscrire. Donc j'ai regardé, je me suis dit, tiens, je vais tenter ma chance. Donc je me suis inscrit. Les gens qui sont responsables de ce concours, justement, sont venus à la présentation que j'avais faite au consulat de Paris. Donc le consulat portugais m'avait reçu pour faire une présentation publique. Donc les membres du jury de ce prix sont venus me rencontrer. On a échangé, on a sympathisé, ils ont beaucoup aimé ce livre. Et donc voilà, il a été sélectionné une première fois. Et après, il a été shortlisté, excusez-moi le terme anglophone, parmi les meilleurs. Et à la fin, donc du coup, il y avait le concours, la remise de prix qui était à Umeå, en Suède, dans le nord de la Suède, une petite ville très au nord. Et j'y suis allé, et dans l'espoir quand même de gagner, parce que je visais quand même le podium. Et j'ai eu la grave surprise d'être numéro 1 dans la catégorie.
Tu étais sur le podium en premier.
Exactement.
L'histoire du Portugal dans mon assiette, c'est le nom de ton livre. Et donc, je le répète, c'est le meilleur livre au monde de cuisine et culture portugaise. Chers auditeurs et chères auditrices, procurez-le-vous. C'est aux éditions Cadamost. Vous pouvez le trouver partout, je suppose, dans toutes les librairies, sur
Librairie,
Internet.
Magasins portugais aussi. Donc, dans beaucoup de magasins portugais, épiceries portugaises, on peut le trouver. Et Amazon, Fnac, Cultura, les petites librairies. Voilà, il n'y a pas d'excuse.
Tu parlais du culot à l'instant, d'une certaine façon, par ta pratique du culot. Tu luttes aussi contre ce stéréotype du portugais invisible, qui se laisse faire, qui se laisse marcher dessus, qui a peur.
Mais voilà, le bon immigré qui est dans son coin.
Absolument.
Après, voilà, c'est pas péjoratif. C'est sûr que c'est toujours plus agréable d'avoir une image de bon immigré que de mauvais immigré. Mais c'est quand même un peu rétrograde. Et donc, j'ai toujours voulu montrer voilà, que les Portugais, on n'était pas une sous-culture. On était une vraie culture, on a une vraie histoire, on a une vraie gastronomie, on a une vraie identité. Et il faut la mettre en avant et pas se laisser marcher dessus. Et il ne faut pas avoir honte de dire qu'on est Portugais.
Et d'où ton compte Portuguese Fact? Comment il est né, d'ailleurs?
Bah justement d'un sentiment de ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol à chaque fois que je tapais portugais sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou sur Internet. Ce qui ressortait, bah, c'était des parodies, des sketchs. J'ai pu en rigoler quand j'étais plus jeune, mais bon, voilà, c'est usant. Quoi. Une fois ou deux, il faut rire de tout, il faut de l'autodérision, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais le problème, c'est quand il n'y a que ça, c'est usant. Et ça ne nous permet pas aussi de nous émanciper, de montrer le meilleur de notre culture. Donc, je me suis dit, on n'est jamais mieux servi par soi-même, je vais me lancer. Donc j'ai créé un Portuguese Fact sur Instagram.
En trois langues.
En trois langues. Ça c'est pareil, on en parlait un peu en off. J'aime bien me mettre des challenges et après au final je regrette parce que c'est beaucoup de boulot. Mais bon maintenant après il faut les assumer et je continue de l'assumer. Mon compte encore aujourd'hui est publié en trois langues, donc français, portugais et anglais.
Oui, même si j'imagine que finalement l'auditoire anglophone il est moindre.
Ah il est ridicule. Mais comme j'ai commencé comme ça et qu'en plus mon compte s'appelle Portuguese Fact, parce que je suis un peu psychorigide, j'aime bien qu'il y ait de la cohérence dans ce que je fais, dans mes choses. Donc si mon compte s'appelle Portuguese Fact et que j'écris que en français et en portugais, ça, dans ma tête ça marche pas. Donc je laisse l'anglais même si il sert quasiment à rien.
Et pourquoi sur Instagram?
Parce que c'est, j'ai 31 ans, donc je suis trentenaire. C'est le réseau social de prédilection pour ma génération, et c'est celui que j'aime le plus parce que au début je faisais que de l'Instagram. Et après je me suis lancé sur YouTube parce que j'adore YouTube. C'est un format que j'adore. Je suis un gros consommateur de YouTube. J'ai eu l'occasion d'écrire des vidéos, des scripts de vidéos pour des gros YouTubeurs avec des millions d'abonnés. Je vous invite notamment à regarder...
Je pense à Dr. Nozman
Doc7.
Doc7, pardon.
Doc7, ouais. La vidéo est géniale, justement, elle a fait des
c'est comme ça que j'ai découvert ton compte, d'ailleurs.
Voilà, elle a fait... il y a 500 000 de vues, je crois, sur cette vidéo, déjà.
Absolument,
donc, c'est une vidéo qui a très bien marché et qui m'a amené aussi de la visibilité. Et encore une fois, on en revient au culot. J'ai eu le culot de lui envoyer un message en disant « Voilà, je te propose ça, je t'écris tout, je demande rien, juste cite mon compte. » Et donc, ça a marché, en plus, c'est très sympa. J'ai eu fait d'autres collaborations aussi plus marginales. Et après, j'ai fait mes propres vidéos. Bon, j'ai fait ça avec les moyens du bord, parce qu'encore une fois, c'est pas mon métier. Donc, j'ai fait du montage vidéo, l'enregistrement du son, j'ai acheté un micro. Enfin, voilà, il y a des vidéos qui sont moins bien que d'autres. J'ai fait ce que j'ai pu, j'étais très content du résultat. Mais c'est énormément, énormément de travail, c'est très chronophage, plus que mes posts sur Instagram. Donc là, pour le moment, je fais plus de vidéos sur YouTube, parce que c'est trop de boulot et j'ai pas le temps de les faire, mais j'aimerais bien m'y remettre. Et là, récemment, quand même, parce que ça, tout ce temps, j'étais sur Instagram. Les jeunes, j'avais une audience, donc on partageait, je rencontrais du monde, on échangeait, mais une certaine catégorie de la population, et notamment les réseaux de communication de la communauté, me prenaient pas au sérieux, parce que voilà, Instagram, c'est aussi générationnel. Les gens, ils pensaient que j'étais un mec qui faisait des trucs sur Internet.
Un influenceur quelconque. Voilà,
personne ne me prenait au sérieux, alors que souvent, j'avais des messages quand même à transmettre, j'avais des choses à dire, j'avais envie de partager, de communiquer, de transmettre des messages.
Et on parle tout de même d'un compte, Portuguese Fact, qui a 16 000 abonnés.
Voilà. Mais personne ne me prenait au sérieux, parce que voilà, Instagram, il est dans son coin. En plus, avec à mon avis aussi, le nom anglophone, ça aide pas non plus. Donc c'est pas grave, je fais des trucs dans mon coin. Et ce livre, justement, ce qui est cool, c'est qu'il est venu aussi légitimer mon travail. Les gens me prennent au sérieux maintenant, notamment quand j'ai été reçu au consulat, quand j'ai rencontré des députés, quand j'ai rencontré des gens de la communauté, ici la radio aussi, les médias. Ça m'a ouvert beaucoup de portes dans la communauté, parce que maintenant, c'est attention, j'ai écrit un livre, c'est Señor Martínez.
On te reconnaît dans la rue.
On me reconnaît dans la rue, dans les magasins. Justement, je te racontais l'histoire, là, on m'a croisé la dernière fois à Jiffy, ça m'a fait rire. C'est toujours agréable, c'est sympa d'avoir des retours, que les gens aiment ce qu'on fait, je vais pas m'en plaindre. Et puis je suis pas non plus une superstar, hein. ça reste très marginal, ça arrive pas souvent. Donc tout ça pour dire que, donc maintenant, on me prend sérieux, et j'ai d'autres ambitions, pas être un porte-parole, puisque je ne prétends pas du tout être un porte-parole ou un symbole. Je suis quelqu'un de normal. J'aime bien être un électron libre dans mon coin, mais essayer de faire bouger les choses à mon humble niveau. J'ai des initiatives, j'ai fait des trucs. Et ce qui est cool aussi, c'est que ça m'a ouvert des portes en dehors de la communauté, et notamment dans des médias franco-français. Je pense notamment, j'ai été reçu par Laurent Mariotte sur Europe 1, par Nathalie Elal sur France Bleu. Avant-hier, j'étais sur Radio Notre-Dame, donc ça me permet aussi de pouvoir m'exprimer en dehors de la communauté et essayer de redorer le blason de notre communauté à l'échelle française, franco-française.
Oui, c'est ça, porter la lusophonie, mais même plus encore précisément, porter la portugalité.
Exactement.
En dehors de la communauté portugaise en France.
Et de montrer, voilà, on existe et on n'est pas que les vieux clichés des années 60 que vous avez. Le monde bouge, le monde évolue. Voilà.
Et tu as bien raison. J'imagine que ça te donne envie d'écrire d'autres livres.
Oui, oui, bien sûr. Bah, mon éditrice n'attend que ça, hein, d'ailleurs.
Sandra Canivet-Lacossin.
Que je salue, d'ailleurs. Elle attend que ça. Et donc, et après, encore une fois, on en revient au temps, parce que c'est pas mon métier, tout ça. J'ai un vrai métier à côté qui me prend du temps. J'ai ma vie perso. Voilà, j'ai mes vacances. Voilà, j'ai une vie comme tout le monde. Et j'ai tout ça aussi en plus. Et ça prend du temps. Et c'est surtout, bah, pour revenir au livre qui a été publié, L'histoire du Portugal dans mon assiette, c'est quand même plus de 2 ans de travail. Heureusement qu'il y a eu la pandémie, justement, et les confinements, et que ça m'a permis de consacrer du temps à cela. Mais c'est énormément, énormément de boulot. Et surtout que je mets un point d'honneur quand même à pas raconter des conneries. Enfin, je suis pas historien, je suis pas sociologue, je suis pas cuisinier.
Oui, tu te dis vulgarisateur, voilà, culturel.
Moi, c'est ce que je prône, c'est plus des, enfin, c'est des invitations à être curieux. C'est un premier pas, c'est mettre le pied à l'étrier justement à la culture portugaise et s'intéresser. Donc voilà, je lance comme ça des petites infos et après c'est aux gens derrière d'aller approfondir. Mais voilà, ça permet de mettre un premier pas dans la culture portugaise. Mais ce premier pas, faut quand même qu'il soit bien fait. Donc je veux pas raconter n'importe quoi. Je veux pas non plus qu'on me décrédibilise ce que je fais, parce que j'ai quand même pris beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de recherches. Mais bon, voilà, c'est pas équivalent à un livre d'histoire, hein. Enfin, les gens ne vont pas pouvoir se prétendre historien après avoir lu mon livre, hein. Ça reste quand même quelque chose d'assez humble, mais c'est un premier pas.
On a déjà, à travers notre WhatsApp 06 72 10 98 60, pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui nous écrivent en direct et nous demandent le titre de ce livre. Donc, je le répète, L'histoire du Portugal dans mon assiette, aux éditions Cadamost, c'est le meilleur livre au monde de cuisine et culture portugaise. Rien que ça. Tiago, on va marquer pour l'instant une courte pause et on revient dans un instant. Il est midi 23, merci d'écouter Radio Alpha, la radio lusophone en France et plus précisément l'Alpha 10-13. Je suis toujours en compagnie de Tiago Martin. Et Tiago, tu as dit juste avant la pause que tu avais à cœur d'éveiller la curiosité qui repose en chacun. Mais qui t'a mis, toi, le pied à l'étrier ?
Mes parents. Il y a deux choses. Il y a mes parents, parce que mon père, justement, malgré qu'il n'ait que à quarta classe, comme beaucoup de monde, il a toujours quand même eu cette passion de l'histoire. Il a toujours voulu m'apprendre des choses. Et j'ai toujours été curieux, justement, j'ai toujours adoré l'histoire, je pense notamment grâce à lui. Et il y a aussi le fait que j'ai grandi dans les beaux quartiers parisiens. Et,
dans le 17e ?
Dans le 17e, justement, oui. Et à Terme, pour être précis. Et il y avait une vraie... Il n'y avait pas de mixité sociale dans ce quartier-là, il n'y en a toujours pas. Et donc, du coup, entre gros guillemets, le bas de la société, c'était les Portugais, parce que voilà, fils de gardienne, etc. Et au fond de moi, il y a toujours eu cette envie de reprendre une revanche, justement, de toutes les fois, justement, on m'a rabaissé, on a rabaissé ma culture, on a rabaissé mes parents, on m'a rabaissé moi, on a rabaissé ma famille. Et enfin, c'était pas quotidien. Hein, je vais pas non plus dire que c'était horrible, mais ça m'a donné cette énergie de vouloir montrer ce qu'il y avait de mieux, justement. Et ça voilà, ça a été un vrai moteur de me dire, ben non, un jour j'arriverai à faire des grandes choses et à montrer que non, on n'est pas une sous-culture, comme je disais au début, et on est une vraie histoire, une vraie culture, on n'a pas à rougir des autres cultures, on n'a pas à se soumettre à d'autres cultures, on est au même niveau, et donc voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire comme je peux, à mon humble échelle, pour donner les arguments, justement, aux gens qui me suivent, de dire, non, voilà, dans notre histoire, il y a ça, dans notre culture, il y a ça, dans la musique, dans le sport, enfin voilà, tout un tas de choses, je donne des éléments aux gens de pouvoir se défendre et d'avoir des arguments pour tenir tête au vent.
Et parmi ces grandes choses que tu cherches à accomplir, tu as récemment fait un sondage, un grand sondage des luso-français qui avait pour objectif de mieux comprendre et mieux définir justement ce qu'on appelle les luso-français, les franco-portugais, les luso-descendants. C'était une des questions,
exactement,
de ce sondage. Tu as lancé ce sondage qui a été accessible pendant une semaine et 1511 personnes ont participé. On parle d'un sondage qui est digne, on le disait entre nous en off, de l'INSEE.
Exactement. Et ce sondage, justement, parce que beaucoup de monde, y compris moi parfois, malheureusement, enfin, je ne fais pas exprès, mais beaucoup de monde parle au nom de la communauté. Mm-hmm. Mais personne ne lui demande son avis. Et en plus, c'est pareil, le terme communauté, c'est un terme qui est compliqué, puisqu'il n'y a pas vraiment de communauté. En fait, il y a plusieurs communautés dans la communauté. C'est plus un microcosme. Justement, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec pas mal de personnes dans la communauté. On va utiliser ce terme parce que c'est le plus simple. Mm-hmm. Mais voilà, mais y a, ça m'a surpris qu'il n'y ait jamais eu une étude.
Quel autre terme tu préférerais d'ailleurs à communauté?
Bah c'est très compliqué d'ailleurs. Ça aurait dû être une des questions du sondage, c'est comment se définir communauté, parce que c'est vrai que c'est plus simple quand même. C'est pas déconnant, mm-hmm. mais dans le sens communauté, union. Il n'y a pas vraiment d'union, il n'y a pas vraiment de bien commun, il n'y a pas de représentant unique de la communauté. En fait, voilà, il y a plein d'associations.
Justement. Il y a une homogénéité.
Voilà, il y a quand même des cohérences, mais il y a des associations. Et en plus, enfin, personnellement, moi, c'est pour ça que j'ai jamais été trop dans le milieu associatif. C'est, il y a des petites guéguerres internes. Chacun voit le bien de son asso, de sa communauté, de son village. Enfin, mais il n'y a pas vraiment de bien commun. Et je trouve ça dommage, justement, et déplorable. Et il y a aussi un clivage entre, je prends des très gros raccourcis, hein, parce que sinon on pourrait parler pendant des heures, et encore une fois, c'est pas mes spécialités, je suis pas sociologue ni historien, mais il y a aussi des très gros clivages avec une sorte d'élite, une forme d'élite culturelle, financière aussi, d'entrepreneurs, etc., qui est d'un côté, et la classe populaire, on va dire, sans que ça soit un gros mot, hein, il y a pas du tout de, je fais pas du tout de discrimination de classe, ou même pas pour quelqu'un de senior doctor ou quoi, mais il y a aussi la classe populaire, justement, avec les associations de Reims, ou de, les associations culturelles, folkloriques, toutes ces choses. Et entre les deux, bah, il y a pas grand chose. Et on est beaucoup quand même à être entre les deux, parce que moi, je suis pas de l'élite, je suis pas de Reims, mais je suis entre les deux, et je suis
finalement la classe moyenne de cette communauté portugaise.
Voilà. Et justement, c'est celle qui ne parle le moins, qui s'exprime le moins, parce que sinon, bah, le Reims, ils vivent dans leur microcosme de Reims, donc quand même un univers très portugais, entre portugais, etc. Donc ils sont, voilà, c'est très fort, donc le Portugal est quand même très présent. Et l'élite culturelle, on va dire, bah oui, c'est pareil, ils vivent dans un milieu avec des expositions d'art, des concerts très, très particuliers, des conférences, des choses comme ça. Et entre les deux, bah, les Portugais, comme toi et moi, comme beaucoup de monde, bah, qui travaillent, qui, comme, enfin, comme ton travail. C'est très délicat de parler de ça, sans passer pour un gros con, blablabla. Mais non, il y a beaucoup de gens qui ont des vies de bureau, parce que bon, on a quand même une société de service, qui ont des vies de bureau, qui travaillent avec peu de Portugais, et du coup, qui s'exposent et c'est dur de trouver justement sa place et de partager cette portugalité justement sans sombrer dans le communautarisme.
Mais pour aller dans ton sens, il y a deux ans, j'étais à un concert, le concert d'ouverture de la saison croisée France-Portugal à la Philharmonie, le concert de Maria João Pires, la grande pianiste portugaise, et je me suis retrouvé dans une salle avec l'élite dont tu parlais. Et j'étais étonné puisque je découvrais l'existence de ces Portugais-là. Moi, je connais le Portugais de mes parents, le Portugais dont tu parles, ce Portugais de la classe moyenne, ouvrière. Mais c'est-à-dire que même cette élite, on ne la voit jamais, on ne la connaît pas. Beaucoup de gens de la communauté ne savent pas forcément que cette élite existe.
Exactement, bah oui. Et bah, c'est un monde très fermé quand même. C'est quand même très fermé, c'est de l'entre-soi, etc. C'est toujours les mêmes. Bah, quand on commence à aller à ce genre d'événement, parce que bon, je commence à avoir la chance justement de rencontrer des gens de cette élite, on va dire, et de voir ces événements. Bah, de toute façon, on les voit, c'est relayé aussi. Et c'est toujours les mêmes têtes, c'est toujours de l'entre-soi, et il n'y a pas de renouveau justement. Et même si des fois il y a des événements très intéressants, bah, c'est pas très axé grand public justement, et ça reste très, bah, faut être invité. Si on est au courant d'ailleurs que cet événement a lieu, parce que des fois on a après coup les photos, voir ah il y avait ça, j'aurais bien aimé y aller quand même. Et donc voilà, mon but c'est de, comme on le disait au début, c'est de vulgariser et de rendre tout accessible au plus grand nombre. Et il y a du boulot.
Je comptais te poser cette question un peu plus tard, mais le sujet de notre discussion nous y emmène. Il y a quelques jours, Miquel Mendes, fondateur du média pour les luso-français Frantugal TV, a publié sur LinkedIn le message suivant, je le cite. « Thiago Martin, sois rassuré, tu n'es pas le seul à vivre ce genre de situation. » Il parlait du fait, le fait que tu aies reçu le premier prix et que ton livre soit le meilleur livre au monde de cuisine et culture portugaise, le fait que personne n'en parle. Il t'a écrit un message où il dit donc « Thiago Martin, sois rassuré, tu n'es pas le seul à vivre ce genre de situation. Comme toi ou moi, d'autres se confrontent aussi à la difficulté de porter un projet en lien avec notre double culture, là où certains ne la comprennent pas et d'autres ne l'acceptent pas. Il existe en France, dans les communautés portugaises, un phénomène de phagocytation qui bride les initiatives des plus jeunes. Encore récemment, un ami de moins de 30 ans me témoignait de comportements violents et agressifs portés par des anciens fermés au changement. Il faudrait obligatoirement suivre le schéma imposé par les associations portugaises du triple F, 4 avec le folklore. Il est vraiment temps que tout cela change. Est-ce que tu partages cette colère, toi ?
Oui, oui. Bah, après, Mickaël, c'est un ami d'ailleurs, que je salue s'il nous écoute. Et il m'a interviewé. Justement, on a fait une interview très intéressante pour Portugal TV. Il y a beaucoup de points. Bah, là, je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit. Il y a certains points, des fois, on peut avoir des sujets. Comme tout le monde, on peut ne pas être d'accord sur certains points, mais dans la majorité des points, je suis d'accord. Et là, sur ce message, je suis entièrement d'accord avec lui. Et justement, grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde qui me contacte, j'échange avec beaucoup de monde. Parce que je mets quand même un point d'honneur à essayer de répondre aux gens qui m'envoient des messages. Et c'est vrai que c'est très flagrant. Il y a une fracture générationnelle, j'ai l'impression. Il y a justement les anciens qui ont la main mise sur leurs assos, sur leurs médias, sur des choses comme ça. Et c'est très dur pour la nouvelle génération de se faire sa place. Donc des fois, faut du culot justement pour, comme on en revient au culot, pour essayer de faire bouger les choses, se lancer. C'est très compliqué. Moi, c'est facile pour moi de dire ça parce que moi, je suis de mon côté, tout seul, je suis un électron libre, je fais des trucs sur mes réseaux sociaux. Mais pour les jeunes, justement, comme lui, qui veulent créer un média. C'est compliqué. Pour toi, j'imagine que ça n'a pas été non plus simple de trouver ta place. C'est dur, mais c'est beaucoup de boulot, c'est usant. Et ce qui peut être frustrant et énervant, c'est qu'on a envie de bien faire, justement. On a envie de bien faire et on demande rien de particulier. On ne demande même pas de subvention, quoi que ça. On veut juste dire, on est là, on fait ça, aidez-nous. Et pour revenir à mon exemple personnel, puisque là, je peux en parler, quand j'ai commencé à créer mes réseaux sociaux, donc il y a un moment, j'ai essayé de contacter plein de monde. J'ai envoyé à toutes les institutions, à tous les médias, à les assos, j'ai envoyé des messages, pas non-stop, je ne suis pas non plus le harceleur, mais j'ai envoyé des messages en disant, je fais ça, ça serait sympa que vous en parliez. Je demandais même pas d'argent, je demandais rien, juste qu'on en parle, ou savoir si je pouvais aider.
Qu'on me soutienne l'initiative.
Qu'on me soutienne, ou même que si je peux aider à quelque chose. Jamais j'ai reçu une seule réponse. Et là, pour en revenir au sondage, justement, le sondage, j'ai publié le rapport que lundi. Donc faut le temps que les gens digèrent, parce qu'il fait quand même 100 pages.
Un rapport de 100 pages, oui.
De 100 pages, donc c'est quand même conséquent, faut quand même l'analyser, etc. Mais pareil, le rapport le lundi, je l'ai envoyé à tous les gens, entre guillemets, influents de la communauté. Pour le moment, j'attends toujours des réponses. Et donc j'ai reçu beaucoup de retours au sujet de ce grand sondage, mais des gens lambda, d'anonymes, des gens qui ont répondu, des gens qui n'ont pas répondu. D'ailleurs, c'est très intéressant, mais des gens à qui ce sondage pourrait être utile, à part toi,
c'était
de réponse, quoi.
C'était mon point d'honneur à t'inviter dans l'Alpha 10-13. Et d'ailleurs, comment a surgi cette idée de sondage ?
En fait, sur mes réseaux sociaux, en story, j'avais fait des petits sondages comme ça, sur des petites questions, et les gens, ça les a passionnés. Et justement, ça me choquait qu'il n'y ait jamais eu d'études à grande échelle justement dans la communauté, parce que moi, on est quand même beaucoup, et ça méritait quand même d'être étudié. Et donc, j'ai essayé de le faire avec mes propres moyens, parce que c'est la première fois que je faisais un sondage de grande ampleur. Je me suis dit, comme je disais, j'aime bien me mettre des challenges, je me suis dit, je vais faire un grand sondage des lusos français.
On va voir si ça prend.
Et on va voir si ça prend, au pire, je me prends un bide, et puis c'est tout, quoi. Mais comme il y avait eu de l'engouement juste sur les petites stories Instagram, je me suis dit, j'ai essayé de faire vraiment du mieux que je peux. Ça sent quand même l'artisanat, hein, le sondage. Il y a des fautes d'orthographe, il y a des questions après coup, je me dis, j'aurais dû faire ça.
Tu étais seul à le préparer.
Voilà, mais j'étais tout seul. En plus, ça a été un peu sur un coup de tête. Je me suis dit, je vais faire ça, ces questions, tac, tac, tac. Il y a des moments où une petite réponse en plus aurait été peut-être nécessaire. Donc il n'est pas parfait, j'en ai conscience.
Non, mais finalement, ce sondage peut être l'étincelle qui crée l'incendie où une vraie institution, un média sérieux va justement s'occuper de faire un sondage de façon plus institutionnelle.
Parce qu'en plus, j'ai pris le soin de bien commenter toutes les erreurs. J'étais transparent sur les erreurs que j'ai faites.
Effectivement.
J'ai pris le soin de mettre là, ça aurait été mieux de faire comme ça, là, ça aurait été mieux de formuler comme ça. Donc j'ai pris soin de la noter justement pour si quelqu'un veut reprendre le flambeau, et justement, je demande que ça et je suis prêt à aider, reprendre le flambeau et faire le truc plus sérieusement que moi, parce que je suis pas jaloux. Hein. Reprenez mon travail, faites-en ce que vous voulez. D'ailleurs, je le dis, tous ceux qui sont... D'ailleurs, j'étais en contact avec des gens qui font des études de sociologie, de sciences politiques, etc., qui veulent mes données. Moi, je les donne, il n'y a pas de souci. À partir du moment où c'est pour en faire quelque chose d'intéressant, je donne le rapport Excel, du sang, pour pouvoir filtrer par âge, par sexe, etc. Donc moi, j'ai tout à disposition. Je les donne comme ça, gratuitement, je ne demande rien, pour que ça soit utilisé. Je veux que ça soit un outil, justement. Je veux qu'il serve ce sondage. Et d'ailleurs, parce que dedans, j'ai mis aussi beaucoup de témoignages. On va peut-être y revenir plus tard. Mais parce qu'à la fin du sondage, il y avait un champ libre pour que les gens s'expriment. On nous entend jamais, on nous demande jamais notre avis, et les gens, faut qu'ils s'expriment. Moi, j'ai la chance justement d'avoir mes réseaux sociaux pour m'exprimer, mais il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls dans leur coin, donc ils peuvent s'exprimer dans le vent. Et donc à la fin, j'ai sélectionné quand même une centaine de témoignages pour apporter du contenu aussi et que les mettre des mots, ce sont des gens qui ont des mots.
Une forme d'humanité aussi.
Ouais, une forme d'humanité. Et il y a des trucs très très intéressants. Des fois, il y a même des gens qui me critiquent, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai mis la critique justement parce que c'est utile. Mais il y a des messages très intéressants. Et il y a notamment une punchline, encore une fois, pardonnez-moi l'anglicisme, mais une personne qui disait que, en fait, l'unique moment où elle se sentait chez elle, c'était quand elle était dans l'avion. J'ai trouvé cette phrase très forte et très belle.
Effectivement. Et donc, justement, on va rentrer un peu plus dans les détails de ce sondage. 58%, 58,1% des participants sont des participantes, ont été des femmes. 47% des participants ont moins de 35 ans, presque autant vivent en région parisienne. Beaucoup de faits de ce type ressortent de ce grand sondage des luso-français, comme tu l'appelais. Premier fait marquant, selon moi, c'est la langue. 90,5% des participants disent parler portugais, mais seuls 17% l'ont appris à l'école. Tu parles portugais, Thiago ?
Oui, je parle portugais. Je pense que je le parle plutôt bien.
Mm-hmm. Et où as-tu appris ?
J'ai appris justement dans les écoles privées, l'ACEP, à Fénelon, justement à Paris. Et on en parlait en off. Moi, ça m'a surpris qu'il y ait si peu de gens qui aient appris le portugais à l'école.
Moi aussi, j'étais très surpris.
On peut très bien apprendre le portugais à la maison, il n'y a aucun problème avec ça. Mais faut pas se voiler la face. Apprendre un portugais correct, n'importe quelle langue, l'apprendre correctement, faut quand même, c'est un métier quand même de transmettre l'enseignement d'une langue. Donc moi j'ai trouvé ça, mais ça m'a mis une claque quand j'ai vu que seulement moins de 20% des gens ont appris le portugais à l'école. Je suis tombé des nues parce que en plus moi comme j'étais dans une grande école portugaise à Paris, c'est plus simple. Il y a de l'offre et il y avait beaucoup d'élèves. Donc pour moi je me disais bon il y a plein de monde qui apprend le portugais. Et là, en fait, pas du tout.
On met le doigt sur un problème qui est l'enseignement du portugais en France.
Non, et c'est une catastrophe. Et justement, comme maintenant, j'ai la chance de participer à certains événements, j'ai l'impression que depuis des années, tout le monde tire la sonnette d'alarme, mais il n'y a rien qui se passe. Et moi, je m'inquiète parce que maintenant, je suis un jeune papa et je ne sais pas comment... parce que bon, je peux essayer de lui apprendre à la maison aussi, mais moi, je veux qu'il apprenne à l'école le portugais correct, à bien écrire, bien s'exprimer. Et ça m'inquiète. Faut vraiment faire quelque chose pour que faut que les gens se réveillent parce que le portugais, bon, c'est pour le Portugal bien sûr, mais pour toute la lusophonie. Et ce qui est dommage, c'est que le Brésil, quand même, qui devrait être le porte-étendard quand même du portugais, fait bande à part et ne fait rien pour promouvoir le portugais. Et faudrait qu'il y ait quelque chose qui se fasse parce qu'on peut apprendre l'italien facilement, on peut apprendre l'allemand facilement. Mais c'est des langues marginales comparées au portugais quand même.
Bien sûr.
Le portugais c'est une langue monde. Et je sais pas, il y a rien qui est fait.
C'est la langue la plus parlée dans l'hémisphère sud.
Ouais, en France, dans les autres pays c'est peut-être différent. Moi j'ai parlé pour le cas que je connais de la France, c'est voilà, tout le monde. Moi j'étais même dans un lycée, on pouvait prendre l'arabe, on pouvait prendre le russe, et rien pour le portugais quoi. C'est fou.
Ça peut être un prochain combat ?
Oui, ça, j'aimerais bien, mais enfin, c'est très bien que moi je peux rien faire. Là c'est des décisions à l'échelle politique. Ça doit venir de bien plus haut.
Une certaine influence aujourd'hui. Ce sondage où 1511 personnes ont répondu,
c'est une arme. Et ça, les gens peuvent compter sur moi pour râler. Je vais râler, je vais continuer de râler et dire qu'il faut faire des choses. Mais j'ai aucun levier d'action, heureusement. Et c'est bien dommage. Mais je vais continuer de râler. De toute façon, en plus, là, j'ai la chance justement d'avoir cette tribune à la radio pour dire il faut faire quelque chose. Nos institutions, nos députés, l'ambassadeur, faites quelque chose. Bougez-vous. faut qu'on puisse apprendre le portugais facilement.
Un autre chiffre qui ressort de ce sondage, 57,6% des participants expriment la volonté de transmettre la nationalité portugaise à leurs enfants. Nombreux témoignent de la peur de perdre le lien avec le Portugal à mesure que les nouvelles générations naissent en France. Ils s'inquiètent aussi de ne pas être capables de transmettre leur culture comme leurs parents ont pu le faire avec eux. Je sais que tu es papa depuis peu, tu viens de le dire. Comment vas-tu transmettre le Portugal à ton enfant ?
C'est vrai que j'ai la chance quand même parce que je suis marié avec une personne franco-française, enfin une française, une ch'ti pour être précis. Et j'ai la chance qu'elle aime beaucoup le Portugal. Elle aime beaucoup le Portugal et justement elle m'a jamais freiné. On va souvent en Portugal, on a sillonné le Portugal, on va à des événements portugais parce que faut quand même me supporter. Hein. J'ai conscience que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me supporte.
On l'embrasse.
Qui me supporte tant par sa patience, tant pour m'encourager. Donc pour moi, je pense que ça va aller. Mais il y a des couples où des fois, et je les comprends, enfin même dans la famille, j'ai eu des exemples où la personne française du couple. Aller au village tous les ans au mois d'août, au bout d'un moment, c'est usant et ce que je peux comprendre. Et pour ces gens-là, c'est pour eux que ça va être compliqué de transmettre cette portugalité. Moi, j'espère que ça va aller, mais je m'inquiète quand même. Je m'inquiète. Ce week-end, il y avait une fête folklorique, justement, à Boissy-Saint-Léger. Et j'y suis allé pour emmener mon fils de 1 an pour qu'il entende un peu de la musique portugaise folklorique. Je vais essayer de maintenir le lien quand même, mais c'est vrai que c'est une vraie question. C'est très compliqué, puisque j'aime bien aussi découvrir le monde. Je mets un point d'honneur comme aller au Portugal minimum 2 fois par an, mais après il y a des problèmes de budget, des problèmes de vacances, donc c'est beaucoup de questions sans forcément de réponses. Moi je pense que ça va aller, mais il y a beaucoup de gens, ce qui a ressorti des sondages, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets justement de ne pas savoir, de ne pas être capable de le faire.
Thiago, j'ai lu très précisément ton sondage, les 100 pages du rapport de ton sondage auquel 1511 personnes ont participé, et il y a une phrase, je vais être très sincère, qui m'a frappé. Tu écris: il faut arrêter d'utiliser l'uso-descendant. Pourquoi ?
Ouais, c'est un terme, je sais que ça énerve beaucoup de monde, parce que c'est le terme qui est communément utilisé. Mais moi, j'ai personnellement horreur de ce terme.
Pour quelle raison ?
Et pour en revenir aux phrases choc, justement, j'en profite, je rebondis sur ça. Il y a une phrase choc que j'ai laissée volontairement, qui n'est pas de moi, qui est quelqu'un qui a participé, qui a dit carrément que le terme uso-descendant lui fait saigner les oreilles.
Et j'irai pas jusqu'à là,
mais moi, ce que j'aime pas avec ce terme, c'est que ça renvoie à une portugalité, si on peut dire, qui est trop loin. Parce que dans le terme descendant, moi je vois vraiment, c'est mes ancêtres qui étaient portugais, alors que non, mes parents étaient portugais, je suis portugais, je ne suis pas un descendant de portugais. Si je prends l'exemple, par exemple, j'ai eu la chance de pas mal voyager, et notamment j'étais en Malaisie, dans le quartier des Portugais de Malaisie, à Malacca, qui était une ancienne colonie, très ancienne colonie portugaise, une colonie qui était un comptoir.
Tu as vécu longtemps en Asie du Sud-Est.
Voilà, j'ai vécu plus d'un an là-bas, et donc j'ai pu voyager, aller à Macao notamment, et donc, pour revenir à cet exemple de Malacca et ses descendants de portugais, eux, ils utilisent le terme de luso-descendant, mais eux, ça fait 500 ans que c'était portugais. Donc, eux, c'est logique qu'on utilise le terme de luso-descendant. Mais moi, en France, je ne m'estime pas comme luso-descendant. Je l'utilise, mais moi, je l'utilise de temps en temps parce que c'est le terme qui est communément utilisé. Par simplicité, tout le monde utilise ce terme-là, donc vous l'utilisez. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas luso-descendant. Je suis portugais, franco-portugais. On peut trouver un autre mot. Mais luso-descendant, j'aime pas ça. Si on fait le comparatif avec d'autres communautés portugaises à travers le monde, quand on voit les Canadiens ou les Américains, par exemple, eux utilisent le terme luso-américain, luso-canadien. C'est des termes qui reviennent souvent, qu'on voit souvent.
Oui, effectivement, luso-américain, luso-canadien, ouais. Luso-allemand, luso-brésilien.
C'est des termes qu'on voit. Ouais. Mais pourquoi on les appelle pas les luso-descendants, eux aussi? Parce que ça serait aussi justifié qu'on les appelle les luso-descendants. Mais eux, non, ils font bien le distinguo. Ils sont luso-américains, luso. Et c'est pour ça que moi, j'aimais bien et que je prenais un peu le terme luso-français. Parce que, encore une fois, on en revient un peu à ma psychorigidité de cohérence. Donc, il y a les luso-américains, les luso-canadiens, les luso-brésiliens. Donc, il y aurait les luso-français. Mais, je suis d'accord que c'est peut-être pas assez explicite. Et dans le sondage, ce qui ressort le plus, c'est sûrement les gens aiment beaucoup, c'est soit portugais de France ou franco-portugais. C'est franco-portugais qui l'emporte.
Absolument, avec 32% des participants.
Parce que je pense que le fait de mettre portugais, c'est beaucoup plus explicite que le luso. Parce que c'est vrai que le luso, bon, nous, on est portugais, on le sait. Mais la population en France n'est pas forcément au courant que l'uso renvoie au Portugal. Donc je pense que franco-portugais, c'est plus explicite. Moi, je suis pas très fan, mais à partir d'aujourd'hui, je vais utiliser le terme franco-portugais parce que la majorité a dit que c'était ça. Donc je vais suivre la majorité. Mais ouais, l'uso descendant, je suis pas fan.
Oui, mais c'est vraiment, ça m'a frappé puisque dans ton bilan, il y a donc écrit franco-portugais. 32,1% des participants s'identifient comme franco-portugais. Cette désignation revient régulièrement dans les témoignages. Il faut arrêter d'utiliser l'uso-descendant. Personnellement, j'aimais bien l'uso-français, mais désormais, je suivrai la majorité et utiliserai donc franco-portugais sûrement plus explicite.
Parce que, justement, dans toutes les propositions que j'avais faites, l'uso-descendant, c'est un de ceux qui a le moins de votes. Il n'y a pas grand monde qui a voté pour l'uso-descendant.
Effectivement. Il est 12h44, vous écoutez bien Radio Alpha, la radio de la lusophonie en France. Je suis avec Thiago Martin, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. 12h50, vous écoutez toujours Radio Alpha et plus précisément l'Alpha Distrait. Je suis avec Thiago Martin et Thiago, je viens de recevoir un message d'un auditeur à travers de notre WhatsApp. Il saura te faire plaisir, c'est sûr. Il est en portugais. Il dit « Amigos da Radio Alpha, estou muito orgulhoso de escutar o que este homem faz. Bravo, bravo, bravo. Viva Portugal. Muito respeito por este Portuga. Bravo, mais uma vez, boa coragem porque eu estou aqui há 53 anos a estar orgulhoso de escutar as palavras deste homem.
Ah, obrigado.
Este homem é o Thiago Martins.
Obrigado pour le message. Mais oui, ça fait très plaisir. C'est quand même agréable d'avoir justement des retours positifs dans ce sens-là. On reçoit quand même pas mal. Et c'est agréable et ça m'encourage justement. Et à contrario aussi, je reçois souvent des critiques, des fois même des insultes, des trucs de la méchanceté gratuite. Ça arrive aussi. Mais bon, à partir du moment où on accepte de s'exposer sur les réseaux sociaux, il faut accepter la critique. Et des fois, voilà, faut se détacher de tout ça. Et il faut retenir que le bon. Mais même si la tendance de l'humain, c'est même s'il y a 50 messages positifs et un seul message négatif, c'est vrai qu'on va quand même tiquer sur le négatif. Mais voilà, je passe au-dessus et puis de toute façon, je suis droit dans mes bottes. Comme je dis, j'ai aucune prétention. Je suis juste quelqu'un de lambda, un citoyen, on va dire, un luso-descendant citoyen. Voilà, on va inventer des
un
mots.
Un franco-portugais.
C'est un camoulox. Donc du coup, c'est juste, comme je dis dans le rapport, qui est disponible gratuitement encore une fois sur mes réseaux sociaux. Je le mets à disposition, vraiment. Je veux que ce soit un outil, je veux qu'il circule, je veux qu'il ouvre les discussions, justement. dans les familles, dans les associations, dans les institutions, parce que notamment dans les commentaires, justement dans les remarques qu'il y avait à la fin, il y a une des remarques qui dit que ça aurait dû être au consulat de faire une étude de ce genre-là.
Absolument.
Donc voilà, donc si quelqu'un du consulat m'écoute, et je leur ai envoyé le rapport, je suis prêt à aider s'il faut, parce que c'est pas les gens qui ont répondu, comme ça a été très, il a été largement diffusé quand même le sondage, y compris par Radio Alpha, Radio Alpha partagé sur Facebook. Donc c'est pas que des jeunes qui me suivent sur Instagram qui ont voté. Il y a vraiment toutes les tranches de la société, toutes les tranches d'âge qui ont répondu. Donc il reflète quand même une certaine image de réalité de ce qu'est la communauté portugaise actuellement. Donc autant que ça serve.
Oui, pour être très précis, 26% presque des participants avaient entre 36 et 45 ans, 25% entre 46 et 60 ans, 3% plus de 60 ans, 19% entre 18 et 25 et 26% entre 26 et 35. Ouais. C'est même plutôt
Il y a quasiment un quart, c'est grossièrement. Ça. Donc non, c'est vraiment plutôt équilibré. Ouais. Donc voilà, c'est pas que des gens sur Instagram qui ont suivi. Il y a vraiment... Il a été largement diffusé. Donc
oui, puisque les mineurs, les moins de 18 ans, ne représentent qu'un 1,9%.
Oui, voilà. Donc il y a vraiment, je pense qu'il reflète quand même assez bien la réalité.
Absolument.
Et les tendances qui peuvent se dégager dans la communauté. Encore une fois, c'est pas forcément le bon mot, mais c'est pas mon métier de trouver des mots. Il y a des gens dont c'est le métier. Et voilà, si ces gens-là veulent un coup de main, je suis prêt à aider, à partager avec mes réseaux sociaux, justement donner la visibilité. Je suis sûr que Radio Alpha le ferait aussi. Donc voilà, faut qu'il y ait des... J'espère que c'est un peu, ça peut paraître un peu prétentieux, mais j'espère que ça servira d'exemple et qu'il y a des gens qui vont se dire, ah bah ouais, il y a peut-être moyen de faire des choses autrement, différent. Je sais qu'il y a déjà des gens qui veulent faire des thèses à propos de ça et qui sont en contact avec moi et je leur ai fourni les éléments et voilà, j'aimerais bien voir ce que les gens vont faire de ce sondage.
Tu le disais, ce n'est pas ton métier, donc comment as-tu construit ce sondage? Les questions, comment elles t'ont surgi?
Il y a un truc, je trouve, qui manque quand même beaucoup des fois dans les initiatives, pas forcément, enfin, mondiales, hein, pas notre communauté ou les Français. C'est du bon sens. En fait, c'est juste des questions de bon sens, des questions simples. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. J'ai quand même demandé à des amis de faire des relectures. Et c'est des questions que moi, tout simplement, c'est des questions que moi je me posais. C'est des questions que moi je me posais, que j'ai formalisées. Il y en a. Encore une fois, avec le recul, parce que j'ai fait ça à chaud, avec le recul, il y a des questions que j'aurais pas posées parce qu'elles apportent rien. Il y a des questions que j'aurais aimé poser. Par exemple, j'ai posé une question qui était très délicate et qui n'a aucun intérêt. C'est dans le cas d'un conflit armé entre la France et le Portugal.
Oui, d'ailleurs, et tu le précises dans le sondage, question qui n'est pas assez précise, justement.
Pas assez précise, oui.
Puisque tu ne dis pas que c'est un conflit entre la France et le Portugal.
Oui. Et en plus, je trouve que cette question, elle sert à rien et qu'elle est limite un peu malsaine. Parce que mon but, justement, c'est pas de monter les uns contre les autres. Et c'est pas non plus le but de donner des arguments genre, ah, regardez, les Portugais, ils nous trahiraient. Mm-hmm. Donc, cette question, je trouve qu'elle est inutile, qu'elle apporte rien et qu'elle est pas intéressante. Avec le recul, j'aurais pas mise. Par contre, à contrario.
C'est très honnête et humble de la
firme. Je suis humain, il y a des erreurs. Quand je parlais de bon sens, il y a aussi le bon sens de faut accepter de faire des erreurs. Et encore une fois, c'est pas mon métier, j'accepte de faire des erreurs. J'ai aucune prétention avec comme je dis, il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de syntaxe. J'ai fait ce que je pouvais, du mieux que je pouvais. Et à contrario, donc du coup, il y a des questions que j'aurais mises. Par exemple, aussi, parce que ça, du point de vue sociologique, je pense que ça a vraiment l'intérêt, c'est le niveau d'études. J'ai oublié de demander le niveau d'études des gens.
Oui.
Parce que selon le niveau d'études, c'est vrai que peut-être que ça influe sur les réponses qu'il y a eu. Mais bon, voilà. Donc, si quelqu'un veut reprendre le flambeau et se lancer dans une grande étude sociologique ou autre de la communauté, je suis prêt à aider.
Le grand sondage des Luso français par Thiago Martin. Rappelle-nous où est-ce qu'il est accessible.
Alors, il est accessible sur mes réseaux sociaux, Portuguese Facts, donc Facebook et Instagram principalement, via les liens en description, enfin les choses comme ça. En cliquant à droite à gauche, on peut trouver. Si vous trouvez pas, vous m'envoyez un message et je vous enverrai les liens directement. Mais voilà, il est accessible par tout le monde. Plus de 100 pages de lecture et il y a vraiment des choses très très intéressantes dedans.
Oui, c'est passionnant. Et on rappelle également le titre de ton livre.
L'histoire du Portugal dans mon assiette, aux éditions Cadamast.
Premier prix au Gourmand World Cookbook Awards en Suède.
Champion du monde.
Champion du monde, le meilleur livre au monde de cuisine et culture portugaise a été écrit par l'homme qui vient de discuter avec moi pendant une heure, j'en suis très fier. Merci beaucoup Thiago.
Merci pour l'invitation et je reviens quand tu veux. Et par contre, je vais retourner bosser quand même parce que j'ai un vrai métier à côté.
Tu donc, travailles aujourd'hui?
Oui, je suis en télétravail, mais bon, la midi 13 justement, c'est ma pause déjeuner.
C'est la pause déjeuner.
C'était cool. Donc là, je vais retourner bosser quand même.
C'était la pause Radio Alpha. Merci beaucoup d'être venu.
Merci pour l'invitation.